L'émission Chronique Hebdo reprend, donc Jacques, vas-y.
Oui, alors donc, pour continuer sur ce sujet de la science et de la technique, alors on a évoqué effectivement cette révélation hein, qui montre que l'histoire de nos scientifiques, que ce soit Polytechnique, Collège de France, que ce soit les différents instituts qui sont censés protéger la santé, qui sont hein, d'ailleurs on a d'ailleurs évoqué déjà les problèmes que pose cette espèce de mécanisme dans le système capitaliste. Déjà Cicéron le disait, et il n'y avait pas le capitalisme, on ne peut pas contrôler les contrôleurs. Hein. Or, c'est pourtant cette logique du contrôle permanent à répétition qui serait effectivement, soi-disant, une solution. Ben non, il n'y a pas de solution. À partir du moment où vous êtes dans un système où seul le fric, la compétitivité, le fait de pouvoir tout fait le voisin, l'absorber, créer des groupes monstrueux comme les multinationales le sont, eh bien, à partir de là, vous êtes démunis totalement sur la possibilité de réguler. On parle de réguler les banques, mais c'est une aberration totale. Il est certain, oui, c'était, je vais faire le cuistre, Cicéron disait, quis custodet, ipsos custodes, qui contrôlera les contrôleurs eux-mêmes. Et effectivement, ces agences hein, qui sont censées, comme le CSTP, là dont je parlais à propos de l'hygiène et la santé, à propos du tabac, ben, ces agences, qu'est-ce qu'elles font? Elles invitent, non seulement elles invitent des représentants des gens dont on peut se dire qu'effectivement, puisque leur fonds de commerce c'est de vendre des cigarettes et du tabac, ils vont sûrement trouver tous les arguments nécessaires pour dire que ça n'est pas nuisible. Mais ce qui est plus grave, c'est que elle est composée de scientifiques qui sont censés être indépendants et qui sont financés par ces mêmes industries du tabac. Alors, c'est la même chose dans tous les domaines de la science et dans tous les domaines de la science, qu'elle soit médicale ou qu'elle soit industrielle ou qu'elle soit financière. Hein ? Donc, il n'y a pas d'autre solution que de mettre un terme à la mécanique capitaliste.
Oui, et alors, Jacques, pardon, tu veux terminer ta phrase, oui.
Non, non, mais si tu avais quelque chose à dire.
Oui, c'était pour dire un petit peu justement un peu la réaction des auditeurs. C'était de dire, c'est un peu le problème qu'il y avait eu entre PMO et Ruffin. C'est-à-dire, si on critique trop l'élevage intensif et la mécanisation, que vont devenir tous ces gens qui travaillent dans ces professions-là? C'est vrai que c'est un problème, mais on est quand même bien obligé de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on fonce dans le mur, quoi. Donc, on est bien obligé de le dénoncer, quoi. On n'a pas tellement le choix.
Et ce qui est triste, c'est qu'il y a longtemps qu'il n'y a pas, évidemment, les journaux, toute la propagande à cette affaire.
Oui, on dirait qu'on découvre.
C'est ça, mais nous, hein, ça fait quand même plus de 20 ans que Radio Libertaire existe et qu'il y a quand même des petites revues, des petits journaux, que ce soit La Décroissance, que ce soit Silence, que ce soit... Enfin, il y en a tout de même un certain nombre qui mettent bien le doigt. René Dumont, par exemple, qui était, lui, un honnête personnage, eh bien, avait déjà mis le doigt sur ce drame que pouvait constituer cette espèce de folie, de cette démesure dans le domaine scientifique et dans le domaine de la consommation.
Et on parle pas encore du domaine pharmaceutique.
Alors évidemment, c'est un petit peu comme ces paysans qui disent, ben oui, mais comme le Crédit Agricole me prête que si j'ai 500 vaches, je suis obligé d'en avoir 500. C'est vrai que, d'une certaine façon, les agriculteurs ont été pris à la gorge pour entrer dans la mécanique capitaliste de l'industrie agricole et non plus de l'agriculture, de l'agriculture industrielle. Mais en fait, il faut se dire que ce sont des hommes, ils n'ont pas, et des femmes, ils n'ont pas tous, comme je le disais tout à l'heure, à propos de du progrès, de l'histoire du progrès, un cerveau complètement bloqué au niveau de la préhistoire, hein, des hommes qui avaient l'intelligence de ne pas s'attaquer au capital terre, mais simplement de cueillir les fruits qu'elle produisait et les animaux qu'elle voyait naître, hein. Eh bien, ces 800, en ce moment, ces 800 personnages, ces 800 agriculteurs de Bretagne qui pleurent parce qu'effectivement, ils ont été roulés par la multinationale Doux, par cette crapule, comme tu dis, qui devrait être exilée ou en tout cas en tôle, eh bien, ils auraient peut-être pu réfléchir avant. D'abord, est-ce que il est normal d'accepter, même quand on élève des animaux qui sont destinés à l'abattoir, est-ce qu'il est normal de les faire vivre pendant leur courte existence dans des conditions aussi scandaleuses que de 1 mètre carré pour 25 poulets, hein? Est-ce que le fait de ça,
oui, et c'est pas le tout de...
Alors voilà, c'est la réflexion que faisait l'agriculteur que j'avais vu il y a fort longtemps et qui disait, bah, c'est pas moi, c'est la multinationale.
Oui.
Eh ben voilà, hein, il faut savoir aussi les risques qu'on prend, puisque comme le disent les capitalistes et le libéralisme défroqué est complètement à la masse, hein, comme il est aux États-Unis. On vit dans la société du risque, hein, comme dirait Madame la fille du MEDEF, là, j'ai plus son nom, là, qui vient encore de faire une déclaration en disant que c'est épouvantable d'avoir permis à des jeunes de 18 ans qui ont travaillé 42 ans, vous entendez bien, de toucher la retraite à 60 ans. Bon, eh bien, c'est elle qui disait, de toute façon, il faut prendre des risques, hein, de toute façon, on va mourir. Alors, au fond, pourquoi ne pas faire du nucléaire, hein? Pourquoi ne pas faire une science que ce soit pour le tabac ou que ce soit pour la bouffe, qui vous tue, hein?
Oui,
voilà, tueurs, c'est ça, les tueurs.
C'est le prétexte qu'on, de toute façon, il faut mourir et il faut bien mourir de quelque chose, comme disait une femme dans un reportage à propos du nucléaire. Mais c'est drôle parce qu'il coexiste à côté de ça, le prétexte, par exemple, pour le développement des laboratoires et des produits pharmaceutiques. Le prétexte, c'est le handicap. Prétexte pour faire des progrès technologiques. On avance toujours un handicap, une solution miracle. Alors, il se trouve que moi, je suis handicapée. Je peux vous dire que le nombre de fois qu'on m'a promis que par une opération, quelque chose au niveau d'une opération neurologique et tout, on arriverait à me refaire marcher normalement. Je peux vous dire que j'en ai à 50 ans, je l'ai entendu pratiquement tous les ans. Et là, dernièrement, toujours la même image. Moi, je crois que vraiment, c'est vrai, il doit plus y avoir de mémoire, parce qu'à la télé, il passe exactement la même image de la même souris avec un électrode sur le front. Et ça fait je sais pas combien de fois qu'il la passe pour dire qu'ils ont trouvé un moyen de faire marcher une souris avec un cerveau qui était un petit peu détraqué, enfin corrompu. Donc, c'est plein plein de mensonges et c'est pas, et ça passe à la télé. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est, j'ai entendu dernièrement aussi quelqu'un qui disait que, en fait, il y a aussi un autre problème en France, c'est que les laboratoires, en fait, ils ont mis au point quelques molécules, mais pas tant que ça, puisque, en fait, c'est la compétition entre les laboratoires. Et quand ils font de la recherche et tout, il faut qu'ils rentabilisent les molécules qu'ils trouvent. Alors comme ils en trouvent pas de nouvelles, il faut trouver un autre moyen de les faire passer, de les vendre et de les enrober d'une autre substance et pour faire croire qu'elles sont différentes, mais finalement c'est les mêmes. Et donc le meilleur moyen, c'est de trouver de nouveaux symptômes. Alors comme la science
et d'en créer finalement
et d'en créer, voilà, c'est-à-dire que les molécules trouvées vont aussi guérir les symptômes qui ont été créés. Enfin, c'est tout un système qui se mord la queue, quoi. Et les dindons, c'est nous, en fait. Et donc, je voulais dire, en plus, souvent, quand il sort un médicament, il y a aussi toute une préparation au niveau médiatique. Alors, on parle, par exemple, du Viagra. Le Viagra, il est apparu juste après une période où on parlait beaucoup des pannes de sexe pour les hommes dans les rapports, quoi, dans leurs rapports. Alors, on fait une bonne campagne là-dessus. Il y a tant de gens qui souffrent de pannes sexuelles. Et puis après, on trouve un médicament et tout le monde est préparé pour aller l'acheter, quoi. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ça paraît bête, mais c'est comme ça. Alors, tu disais que ça fait longtemps qu'on dénonce. Moi, j'ai trouvé des déclarations aussi de l'association transhumaniste mondiale, hein. C'est-à-dire que c'est les gens qui veulent développer l'humain avec tout l'arsenal scientifique et qui va permettre de soi-disant rendre heureux l'humanité. Alors voilà leur premier article, c'est l'avenir de l'humanité va être radicalement transformé par la technologie. Nous envisageons la possibilité que l'être humain puisse subir des modifications, telles que son rajeunissement, hein, surtout attention, il ne faut pas vieillir, c'est pas beau, l'accroissement de son intelligence, oui, parce que naturellement, l'être humain, il n'est pas très intelligent, donc va falloir quand même l'aider un petit peu par des moyens biologiques et artificiels pour accroître un peu ses capacités, parce que franchement, on a bien vu jusqu'ici l'humanité, ce qu'elle a créé, hein. Donc voilà. Et puis, si on pouvait aussi transformer sa capacité, moduler son état psychologique, ça, ce serait encore super, parce que tous ceux qui souffrent au travail et tout, ben voilà, pilule, et puis vous irez comme des moutons à l'usine, et tout se passera bien. Voilà. Alors, à ça s'ajoute l'abolition de la souffrance. Si on peut vous empêcher d'avoir mal, c'est encore mieux, parce que souffrir, c'est pas très marrant, et ça, c'est la palissade. Et puis d'autre part, il y a toute l'exploration de l'univers, le fantastique qu'on met à portée du cerveau, qui fait rêver les gens, tout ce qu'a besoin l'être humain. Donc voilà, à force d'être aidé par toute cette aide technologique, tous ces, comment tu appelles ça, ces béquilles,
ces béquilles.
Voilà, tout ça, on se rend compte que finalement, l'être humain, au plus ça va, au plus les scientifiques le considèrent comme une machine, finalement. Et tout devient machine, c'est-à-dire que on arrive dans une ère où on ne différencie plus l'humain, la machine et la société. Tout fonctionne comme ça. Avec les ordinateurs. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense même qu'un jour on va abolir les élections, parce que finalement les machines, elles réfléchiraient mieux que nous. On constate ça, c'est que finalement prendre une décision, une machine serait plus capable, puisqu'elle est capable d'avoir beaucoup plus d'informations en elle, de faire un choix. Hein, sur une manière, sur une façon binaire, hein, ça, évidemment. Donc tout ce qui est nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives, tout ça s'allie pour rendre l'individu finalement le plus évaporé possible. Alors je vais vous dire la conclusion, parce qu'alors là elle vaut son pesant d'or. Alors je redis le titre, ça s'appelle « Les chimpanzés du futur ». Alors là, la conclusion, d'après Kevin Warwick, un scientifique britannique, et qu'on considère comme un premier cyborg, parce qu'il s'est implanté des puces et tout, pour mieux comprendre comment fonctionnait lui comme machine.
L'homme-robot
qu'il est certainement lui-même. Alors... Alors voilà, attention, hein, si vous faites pas ça, vous êtes mal. Hein. La technologie risque de se retourner contre nous, sauf si nous fusionnons avec elle. Voilà, si on fusionne plus entre nous, on va fusionner au moins avec les machines, ce sera mieux. Et ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap. Alors là, ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. Alors voilà comment on est vu. Si on refuse de fusionner avec la technologie. Alors moi je trouve que quand même c'est tout ça. Bon, c'est vrai qu'on est on dit qu'on est victime de la technologie. Évidemment que non, on peut s'en sortir, mais quand même c'est vraiment difficile. Et la médecine, c'est vraiment peut-être le panneau le plus difficile de s'extraire, parce que quand vous avez un médecin qui vous fait des ordonnances de médicaments et qui ne vous dit jamais de les arrêter, hein, parce qu'ils sont souvent là pour vous dire d'en prendre, mais jamais ils vous téléphonent pour dire mais quand c'est passé vous arrêtez, hein. Non, c'est systématiquement maintenant on vous prescrit des choses et vous voici à 50 ans déjà avec 10 médicaments à prendre par jour et c'est marrant parce que quand on en parle aux autres on se rend compte que tout le monde prend les mêmes médicaments et qu'on est tous finalement on serait la même machine, quoi. Voilà, Jacques.
Alors pour compléter peut-être avec toujours sur dans le domaine scientifique, je voulais dire un mot du nucléaire parce que il y a quand même quelques réactions plus normales, j'allais dire, et pas en France mais en Allemagne, dans lequel on peut lire un article dans lequel l'Allemagne se met en ligne pour sortir du nucléaire, et pour ce faire elle va investir plusieurs milliards pour prolonger et rénover son grand parc d'éoliennes pour qu'elle puisse alimenter en énergie l'ensemble du pays depuis le nord jusque vers le sud. Donc je crois que est-ce que vraiment cette décision sera respectée? Est-ce que les multinationales du nucléaire et de l'énergie ne vont pas se battre pour casser cette décision ou pour la rendre parfaitement inutile? Je crois que effectivement il y a une grande difficulté, parce que quand on voit en France que le pouvoir hollandais, le pouvoir de Monsieur Hollande, qui avait plus ou moins négocié un faux accord avec Madame Duflot, vous savez, celle qui fume des pétards, pour dire, moyennant quelques circonscriptions, eh bien, nous promettons d'arrêter le nucléaire. Eh bien, il vient en effet par l'intermédiaire de sa ministre, qui casse pas une brique, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Eh bien, il vient de dire, comme je l'ai dit au début de cette émission, que Fessenheim, qui est la centrale la plus pourrie de France, qui est au bout du rouleau, eh bien, il ne la ferait s'arrêter que à la fin de son quinquennat, en 2016. Et par conséquent, je crois que on a là ce que c'est que les promesses d'un député ou d'un président de la République. Donc, maintenir le nucléaire, un nucléaire dangereux en Alsace pendant le quinquennat Hollande, voilà ce que c'est que la promesse d'arrêter le nucléaire. De la même façon, à Flamanville, dans la construction de cette espèce de monstre, soi-disant les nouveaux réacteurs qu'on appelle EPR, eh bien, le Canard Enchaîné rappelle une chose très, très frappante, si l'on peut dire, c'est que cette EPR qui devait coûter 3 milliards, qui va en coûter 6 milliards, à cause évidemment des erreurs de conception et de fabrication, eh bien, il va notamment être aménagé parce que on s'est aperçu que les 45 consoles d'acier qui sont destinées à soutenir le couvercle du futur réacteur EPR de Flamanville, elles ont été mal fabriquées. Elles ont été faites en dépit du bon sens, et donc les fuites du futur réacteur étaient absolument automatiques si on n'avait pas changé ces consoles. Alors, la société qui fabriquait ces consoles défectueuses, elle s'appelle Eiffage, hein, vous lisez ça sûrement sur les panneaux publicitaires, EI2FAGE, Eiffage Construction. Et donc, plutôt que de lui dire, eh bien, d'abord vous allez nous rembourser les millions que vous avez touchés pour faire des 45 consoles inutilisables et dangereuses, non seulement on lui laisse le fric hein, à la société, mais en plus, comme il faut les remplacer, à qui on va confier la fabrication des nouvelles consoles ? Eh bien, à la société Eiffage, voyons. Hein, c'est-à-dire que la même société incapable de faire des consoles d'acier destinées à soutenir le couvercle du futur réacteur de Flamanville, qui vient de fabriquer des consoles absolument inutilisables et dangereuses, eh bien, c'est la même société qui va en faire de nouvelles. Mais, alors, quand on fait la remarque aux gens d'EDF, ils disent, ah, mais nous, on va quand même former le personnel qui va fabriquer ces consoles et on va bien surveiller cela. Mais enfin, c'est pour vous dire que finalement, et tout ceci porte sur des milliards, hein, des milliards et des milliards. C'est pour vous dire à quel point le développement capitaliste ne repose que sur évidemment des considérations financières et pas du tout de protection de la société. Alors il y a dans le monde diplomatique pour avoir une touche un peu plus optimiste, encore qu'elle soit très timide, c'est que c'est dans le monde diplomatique de ce mois qui s'appelle « Des usines dans nos salons » et qui rappelle qu'aux États-Unis, il y a une initiative pour qu'on puisse réparer et éventuellement fabriquer tous les objets dont aujourd'hui on vous dit ah ben, au bout de 2 ans, il faut les jeter à la casse et les remplacer par du neuf. Hein, les réparateurs qui ont presque disparu. Hein, en cas de panne d'un appareil, le service après-vente n'offre souvent d'autres choix que d'en racheter un neuf. Eh bien, refusons la condition de consommateur passif, de gadget manufacturé. Un mouvement aux États-Unis qui s'appelle les Fab Labs, fabricants, laboratoires, entend, à l'instar de celui des logiciels libres, rendre la main aux utilisateurs. Mais on a vu que pour les logiciels libres, ça marche pas beaucoup, parce que là encore, dans un système fondé sur le fric, eh bien, effectivement, toutes les initiatives, et c'est pas nouveau, ça, c'est ça qui est surprenant, que personne n'ait compris. Pourquoi n'existe-t-il plus de mutuelles et de coopératives? Bah, à cause du système capitaliste qui les a absorbés, hein. Il est certain que vous ne pouvez pas dans un environnement fondé sur l'élimination du voisin, sur la guerre économique, sur l'absorption de celui qui vous dérange et qui vous permet pas de faire des bénéfices considérables, vous ne pouvez pas avoir sérieusement la possibilité sur le moyen ou le long terme, mais c'est souvent à moyen terme. Hein. Il a fallu 30 ou 40 ans à peu près pour que les coopératives et les mutuelles disparaissent complètement et se transforment, quand elles n'ont pas disparu, en capitalistes encore plus pervers que les autres parce qu'ils prétendent ne pas avoir d'actionnaires. Voilà un article de Sabine Blanc sur ce sujet, c'est-à-dire essayer de trouver des petites écoles, des petits laboratoires dans lesquels vous pourrez réparer votre moulin à café ou votre tondeuse à gazon. Voilà, ai fini avec l'aspect de la science.
Oui, est-ce que pour s'amuser un peu, le son n'est pas très bon, mais on va vous faire écouter, on va essayer de vous faire écouter une chanson. J'espère que vous entendrez les paroles.
On ne parle plus que des Jeux Olympiques, c'est merveilleux, c'est prodigieux. Et bien parmi tous ces sports athlétiques, le plus joli, c'est le rugby. Ah, qu'ils sont beaux dans leurs petites culottes, tous ces sportsmen, ces rugbymen. Mais demoiselles, si ça vous asticote, n'hésitez pas à taper dans le tas. Ah, René Fournari, un joueur de rugby, et vous aurez pour charmer vos jours un champion du sport et de l'amour. Oui, toujours vigoureux, même quand il sera vieux, vous le verrez se décarcasser pour marquer tout au moins un essai. Bien qu'il soit tout à fait un spécialiste en fait de football, il n'est point folle. Avec les jolies filles, le rugbyste répertit-on l'association au football quand le ballon est par terre pour l'expédier avec le pied. Mais en amour, il le prend au contraire d'un air butin dans le creux de la main. Ah, René Fournari, un joueur de rugby, et vous aurez pour charmer vos jours un champion du sport et de l'amour. Oui, toujours vigoureux, même quand il sera vieux, vous le verrez se décarcasser pour marquer tout au moins un essai. Chaque dimanche, il vous dit, ma jolie homme, frotte-moi les reins au camp de grain. Je pars pour faire un match en Australie, gonfle le ballon, la mondiale son. Quand il revient, il lui manque une oreille, il a le flair tout de travers. Mais il a gagné la coupe en vermeil, et gâte sa photo dans l'auto. Ah, René Fournari, un joueur de rugby, et vous aurez pour charmer vos jours un champion du sport et de l'amour. Oui, toujours vigoureux, même quand il sera vieux, vous le verrez se décarcasser pour marquer tout au point un essai.
Voilà, Maurice Chevalier, j'espère que vous avez pu entendre.
C'est absolument génial.
De rugby. Alors, vous avez compris, il faut se marier avec un joueur de rugby.
Et alors, c'est très d'actualité, d'ailleurs, c'est notre chronique sur le sport.
Oui, c'était ça.
Vous savez qu'on a déjà lu je ne sais quelle petite brochure sur les joueurs de football, sur l'admirable métier qu'est le joueur de football, avec aussi comme pour les pompiers, leur petite scandale sexuel, mais là au moins Maurice Chevalier nous raconte une histoire.
Oui, c'est une époque, qui, c'est comme qui, le poulailler qui, de qui, tout à l'heure.
Voilà, qui pourra effectivement montrer à quel point le sport est parfaitement ridicule et que effectivement les petites culottes blanches des
joueurs
d'aujourd'hui devraient servir en effet que à marquer un essai comme le rappelle Maurice Chevalier, mais ça tombe bien parce que les joueurs de football de France sont partis en Ukraine pour en effet les jeux olympiques de football ou je ne sais quelle manifestation. En tout cas, la chanson de Chevalier, tu m'as dit hier que c'était à propos des jeux olympiques de 1924.
24, oui.
Et donc il y avait quand même un peu d'humour, alors que maintenant, comme le disait Orwell, le sport c'est la guerre sans les armes. Effectivement, les armes sont contenues uniquement dans la petite culotte blanche du joueur de rugby.
Mais oui, donc, puis on sait l'aide technologique qu'il
a. Bien sûr. Ah, et puis, regarde les sportifs sont payés comme des PDG, les clubs sont des affaires, ils sont cotés en bourse. Le Paris Saint-Germain est financé par le Qatar, ce monstrueux émirat qui regorge de fric parce qu'il a volé le pétrole que absolument personne ne lui a dit qu'il lui appartenait. Hein. Il appartient à la terre tout entière, ce pétrole. Eh bien, le Qatar, cet émirat qui vend des armes pour déclencher les guerres civiles en Afrique, c'est d'ailleurs dans l'actualité, hein, le Qatar vend des armes, c'est dans le Canard Enchaîné aussi, qui souligne que le Qatar vend des armes à tous ces gens d'Al-Qaïda, à tous ces islamistes radicaux qui en Afrique du Sahel sont en train de mettre évidemment le pays à feu et à sang comme le font tous les religieux en plus quand ils ont du fric. À propos de religieux et de ce que c'est qu'une religion, un petit entrefilet aussi dans le Canard Enchaîné de cette semaine, dans lequel on peut lire qu'un poète turc qui a osé faire une petite plaisanterie en disant qu'il avait vu un mufti raccourcir terriblement son appel au muezzin ou son appel à la prière pour simplement aller boire un peu de raki avec sa copine, et bien pour avoir dit ça, simplement ça, il risque d'être condamné à 1 an et demi de prison. Alors je vais essayer de fermer la porte parce qu'on entend un bruit infernal dans le studio. Oui, voilà, c'est pas une attaque du studio de Radio Libertaire, je vous rassure. Et donc, oui, voilà, notre ami du Qatar qui finance les islamistes du Mali, voilà ce qu'écrit le Canard Enchaîné. Alors, dans la même actualité du gigantisme et de la folie, de la démesure, de l'hubris, comme disaient les Grecs, hein, c'est-à-dire, au fond, vouloir prétendre à égaler les dieux, c'est-à-dire à devenir des espèces de fous furieux sur la Terre qui est un astre. Eh bien, également Monsieur Delanoë, hein, qui lui est un obsédé des gratte-ciels, il veut à tout prix confier aussi à un promoteur de ses amis, hein, que parce qu'il est ébloui par un projet de gratte-ciel, Monsieur Bertrand Delanoë, hein, commande 3 experts contradictoires avant d'offrir au promoteur Unibail un stupéfiant contrat, c'est-à-dire pour faire, en effet, à Paris, un gratte-ciel de plusieurs centaines de mètres de hauteur. Là encore, hein, on peut dire que c'est vraiment la folie totale. Alors, dans la petite rubrique annonces là à propos du ministère du redressement productif, eh bien monsieur Montebourg a été doublé par monsieur Payon qui lui a trouvé que pour la rentrée, comme il y avait pas assez d'instituteurs, eh bien, il fallait appeler les retraités pour boucler la rentrée. Alors donc, les retraités sont invités, ceux qui ont pris leur retraite, peut-être à 60 ans, dans l'éducation nationale, sont invités à reprendre un peu du service, parce que effectivement, il n'y a plus assez de personnel et de personnel formé. Voilà sur ce qui concerne, là encore, hein, le côté totalement fantaisiste de ce que c'est qu'un gouvernement, que de ce que c'est qu'un État. Dans la même optique que cette folie de Delanoë qui veut faire un gratte-ciel encore à Paris, comme s'il y avait déjà pas les tours du 13e arrondissement en Italie qui défigurent complètement le paysage, qui sont totalement là encore, qui n'ont plus de rapport avec la dimension humaine, hein, c'est-à-dire au fond, tant qu'on a 3, 4 ou 5 étages, eh bien, effectivement, on est dans un environnement dans lequel on n'est pas complètement écrasé, comme l'ont été volontairement d'ailleurs, pour marquer leur soumission à un dieu, les églises ou les cathédrales du Moyen-Âge et des siècles qui nous ont précédés, hein, où là, effectivement, mais en général, c'était quand même un bâtiment destiné à écraser le fidèle, à le faire ramper ou s'agenouiller, mais il n'y en avait qu'un. Et c'était en effet dans un objectif très concret qui était la soumission, l'obéissance, la discipline, la règle d'or, le respect du catéchisme et du dogme divin. On pourrait penser qu'on est quand même passé un peu plus loin, qu'on a quand même été le pays des Lumières, de Diderot et de Condorcet. Ben non, hein, Monsieur Delanoë veut encore une fois nous considérer comme des personnages simplement admiratifs d'un architecte complètement fou. D'ailleurs, il y a un article qui dit que les architectes, plutôt que détruire les tours, devraient essayer de les rénover, que ça serait apparemment pas plus cher et ça provoquerait beaucoup moins de déchets que le fait de détruire complètement ces immeubles de banlieue. Alors dans la catégorie aussi mépris des individus, pas seulement à cause de la religion, c'est le TGV qui a décidé monsieur, je ne sais plus son nom d'ailleurs, le PDG qui était l'ancien directeur commercial de la SNCF et qui je me rappelle considérait que les contrôles considérait que les contrôles c'était indispensable. Eh bien monsieur Pépi veut faire un TGV bas de gamme, hein, un TGV low cost. Alors déjà que dans les TGV on n'est pas du tout à l'aise, hein, on peut pas bouger beaucoup, on est entassé, si par malheur le wagon est plein, effectivement c'est insupportable. Et bien là il veut en faire encore des plus serrés, c'est-à-dire le wagon de marchandises TGV dans lequel on entassera les futurs voyageurs. Alors voilà ce que c'est que la folie, la folie des grandeurs, la folie de vouloir à tout prix faire quelque chose qui ne correspond pas du tout à l'équilibre, à la mesure de ce que normalement les individus souhaitent, ce que nous souhaitons nous, hein. Et pour compléter, pour terminer, puisqu'on est à plus d'une minute, je voulais vous dire un scandale encore plus incroyable. Figurez-vous que en France et en Europe, comme les industries ont disparu, que les multinationales effectivement ont étouffé toute l'activité locale et régionale, il n'y a plus qu'un domaine qui effectivement se marche bien parce que il sert les richissimes classes supérieures de Chine, du Brésil, des États-Unis et d'Europe, c'est le luxe. Eh bien, figurez-vous que le luxe européen met en avant ses bons points et son poids économique pour demander à être protégé. Vous entendez bien ? Cette industrie du luxe voudrait aussi quelques milliards venus de la poche des pauvres contribuables. Voilà.
Voilà, Chronique Hebdo, c'est terminé. Alors la semaine prochaine, nous serons deux, nous serons trois. Vous verrez, ce sera une découverte. En attendant, n'oubliez pas, il y a Le Monde Libertaire, il y a un article de Rod Cole que moi j'aime bien, Chronique Réfrétive.
Ah oui, très bien. Très intéressant sur notre idéal anarchiste,
sur l'idéal
alors
anarchiste.
Qu'il est souvent malmené par des discours ou des écrits complètement ridicules.
Oui, oui, que nous n'avons pas un programme défini, mais des principes. Voilà. Alors, Le Monde Libertaire. Et puis, moi, j'ai vu aussi une exposition. Exposition, alors c'est plutôt pour les Parisiens, qui a été construite par Annie Lebrun. C'est au musée Victor Hugo et ça s'appelle Les Arcs-en-Ciel du Noir. Donc, pour ceux qui connaissent Annie Lebrun, je vous la conseille. Alors, n'oubliez pas, Chronique Hebdo, vous pouvez retrouver les émissions sur notre blog. Et puis, parfois, quelques commentaires. Et nous laissez vos commentaires si ça vous dit d'avoir une petite correspondance avec nous. Voilà, nous vous laissons dans les bras de Marlène, avec Béatristan, avec Floréal. Et puis...
Et à la semaine prochaine.
Et puis, Michel Kipper. Voilà, et à la semaine prochaine.
Quand nous chanterons